Bonsoir. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCON, sigle l'Église du Christ au Congo, en lancé mercredi 15 janvier une feuille de route dénommée Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Monseigneur Donatien Cholet et le révérend Eric Senga, respectivement secrétaires généraux de la CENCO et de l'ECC, ont affirmé leur engagement à mobiliser la population congolaise pour la paix et à renforcer la cohésion sociale dans un contexte marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de la RDC et pour la stabilité dans le Grand Lac. Les deux confessions religieuses invitent tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté à considérer l'année 2025 comme année de paix et du bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Que pensez-vous du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs lancé par la CENCO et l'ECC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 21 décembre 2025. Participe au débat Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO. Monseigneur Donatien Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
Avec moi dans ce studio, Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, il est premier vice-président du parti politique Engagement citoyen pour le développement, SID en sigle, parti membre de la coalition Lamuka. Il est aussi notable du Nord Kivu. Jean-Baptiste Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à Monseigneur Donatien.
Jean-Thierry Monsenepo est aussi avec nous dans ces débats. Il est cadre du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU en sigle, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Jean-Thierry Monsenepo, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Monseigneur et aux auditeurs de Radio Capitale.
À Matadi, dans la province du Congo central, vous nous suivez sur la sonde 2.0 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
À recourir aux valeurs sociologiques et spirituelles de Bumuntu pour construire la paix durable et le bien vivre ensemble en RDC dans la région des Grands Lacs. C'est l'une des idées sur lesquelles repose la feuille de route du pacte social lancé mercredi 15 janvier à Kinshasa. À travers cette initiative, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo disent vouloir faire de l'année 2025 une année de paix et du bien vivre ensemble en RDC. Roneli Timbonera a parcouru cette feuille de route et nous propose de se condenser.
Cet appel intervient dans une période particulière marquée par la persistance de la souffrance liée aux nombreux morts et déplacements de la population dans la région. Pour le responsable de ces deux structures, il est incompréhensible que de tels événements puissent se poursuivre dans une zone connue pour son sens élevé de valeurs sociologiques et spirituelles du Bumuntu. Alors que la tension monte dans la région, Eric Senga et Donatien Cholet, respectivement porte-parole de l'ECC et secrétaire général de la CENCO, décident de briser le silence face aux conflits armés et politiques et les conséquences qui en découlent. Il justifie l'émission de ces pactes sociaux par les soucis de permettre à l'Afrique de s'affranchir des conflits politiques et armés en mettant en avant les notions de fraternité entre le peuple. Ces deux organisations proposent d'aborder les problèmes selon le modèle de l'arbre à palabre en vue de trouver des solutions idoines aux problèmes régionaux.
Merci Ronelli, Monseigneur Donatien Cholet. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. C'est quoi les objectifs en lançant ce pacte social
Eh bien, il s'agit de s'investir pour obtenir une paix durable. Je tiens à préciser, j'ai apprécié le commentaire fait tout à l'heure par notre ami. Mais il ne s'agit pas de l'initiative de Révérend Eric et de Monseigneur Cholet, mais il s'agit de deux églises protestantes et catholiques avec toute la hiérarchie. Du côté catholique, tous les évêques ont été consultés. Alors, la motivation est claire. Donc, la situation sur le terrain, nous qui avons des représentants là-bas, nous qui avons des contacts avec les agences humanitaires, considérant les limites de la guerre, considérant les limites de la démocratie, et plutôt de la diplomatie à l'avenir, je crois qu'il faut chercher notre voie pour obtenir ce que tout le monde désire, la paix et le bien vivre ensemble. Voilà pourquoi les deux églises se sont mises ensemble pour sensibiliser toutes les couches sociales à adhérer à cette idée qui se fonde d'abord sur la foi chrétienne, mais non seulement sur la foi, mais sur les valeurs traditionnelles de Bomotu, entre autres.
Alors, Monseigneur Donatien Cholet, comment vous allez vous y prendre, hein? Je parle de l'Église catholique et de l'Église protestante. Comment vous allez faire pour impliquer les communautés?
Eh bien, je crois que les communautés, nous les avons avec nous. Et c'est ça le grand défi aussi. Donc, il faut que les gens comprennent mieux de quoi il est question. Et nous allons déjà au début de la semaine organiser un atelier de deux jours de non-commission technique de justice et paix Senko et l'FTC pour planifier justement cette campagne de sensibilisation. Mais entre-temps, le message qui a été lancé à Noël a atteint beaucoup de gens, la feuille de route peut-être plus des intellectuels. On met en place justement une dynamique de plaidoyer aussi à l'interne et à l'externe pour avoir une grande adhésion à un projet social salutaire pour notre pays et pour la sous-région.
Et comment vous allez faire pour atteindre cette grande adhésion, les mécanismes précis que l'Église, les, ces deux Églises ont mis en place pour avoir, pour atteindre un grand nombre de Congolais. J'imagine que même ceux qui sont au fin fond du Congo sont doivent aussi adhérer à ce pacte.
Je crois qu'un des avantages, un des atouts que nous avons, c'est la capillarité. Nous sommes présents partout, même là où l'État n'est pas présent dans ces institutions. Alors, les commissions vont se réunir, comme je dis, pour mettre en place les instruments, notamment un langage qui peut facilement être capté par toutes les couches. Bon, nous avons vous avez déjà la CENCO en tant que institution sans l'ECC, en 2018, avait fait une campagne d'éducation civique électorale qui a atteint 13 millions de Congolais identifiables. Donc, on a la méthodologie. Alors, sans compter ceux qui fréquentent nos CVB, sans compter les communiqués, les adhésions qu'on pourra faire au niveau de toutes nos structures, paroisses, écoles, etc.
Il y a un auditeur qui vous pose à vous cette question, Monseigneur Cholet. Il s'appelle Apollinaire Tchomba depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Il dit aujourd'hui l'Église catholique et protestante se montre prêt pour la quête de la paix. Je reprends ses propos. Ne vont-elles pas changer d'avis après pour condamner à tort les régimes en place, qu'ils soient toujours les artisans des paix pour venir à la rescousse des autorités?
Qu'on ne confonde pas les choses. La mission prophétique d'une église qui peut encourager comme dénoncer n'est pas à confondre avec une initiative de fédérer tout le monde autour de la paix. Et à celui qui a posé la question, je dis que cette initiative, c'est aussi une réponse à l'appel du chef de l'État. Ceux qui l'ont suivi à Isiro, il était plus que clair. Il a dit, par rapport à la crise, chacun doit jouer sa partition. L'Église doit prier et le président a ajouté, l'Église, ce qu'il attend de l'Église, c'est qu'elle soit au milieu du village, réellement au milieu du village. Il approche les uns et les autres pour dialoguer. Je reprends les mots du chef de l'État. Et nous voulons que ce soit dans l'esprit de la palabre et non des jugements pour condamner. Non. Quelque chose qui devrait nous amener à la réconciliation, qui revient et réunit toutes les tendances.
Alors, une certaine opinion estime que si vous avez lancé ce pacte social pour la paix, c'est parce que l'Église catholique a été trop critiquée par ses prises des positions vis-à-vis du pouvoir en place. Et pour essayer de vous racheter, vous avez décidé de faire quelque chose, hein, ou de lancer justement ce pacte social pour la paix.
Ce n'est pas la première fois que l'Église catholique prêche la paix. Et puis, cette mission ne va pas dédouaner l'Église catholique de sa mission prophétique qui restera critique en cas de nécessité. Et là, nous sommes devant une réalité qui correspond aussi à notre mission en tant qu'Église. Donc, on n'a pas cherché des prétextes à gauche, à droite. Et encore que, dans sa mission prophétique, l'objectif de l'Église n'est pas d'attaquer quelqu'un, mais plutôt de défendre les valeurs dont la République a besoin pour aller de l'avant.
Alors, Monseigneur Donatien Cholet, comment allez-vous financer les activités liées à la mise en œuvre de ce pacte?
C'est un grand défi. Donc, l'appel sera lancé aussi à tous ceux qui veulent vraiment bâtir la paix à tous les niveaux. Et nous espérons que la prise de conscience que les gens auront à partir de la campagne de sensibilisation va les disposer à donner chacun une contribution qu'il peut pour réussir cette grande édifice qui est la paix et le bien vivre ensemble.
Et donc, vous n'avez pas des sources de financement précises. Vous comptez sur les fidèles, hein?
Sur les fidèles et toutes les structures qui peuvent aider.
Jean-Thierry Monsenepo, vous êtes cadre du parti politique Convention des Congolais Unis, CCU, c'est un parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Alors, quelle est votre lecture, hein, de ce pacte social lancé par l'Église catholique et l'Église protestante?
Merci beaucoup, madame. À mon point de vue, la question de la paix est une question qui ne demande pas à ce qu'on puisse se jeter des pierres, dans la mesure où l'idée qui pourrait permettre à ce que les Congolaises et les Congolais puissent vivre dans la paix ne peut être qu'acceptée. Mais seulement, cette manière d'agir de l'Église catholique et de l'Église protestante pose plusieurs problèmes qui méritent d'être analysés, car elle reflète une posture qui peut sembler à la fois paternaliste et déconnectée de la souveraineté populaire et des institutions de l'État. Premièrement, je parlerai de l'unilatéralisme des églises, un manque de consultation. Lancer une initiative sur un sujet aussi important que le vivre ensemble sans consultation préalable des parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, la société civile ou même d'autres confessions religieuses, donne l'impression que l'Église catholique et protestante se positionne en arbitre suprême. En cela, on peut déceler un manque de transparence en initiant ce projet sans expliquer leur démarche. Elle semble court-circuiter les mécanismes habituels de dialogue national. Cela pourrait être perçu comme une marginalisation des acteurs politiques et civiques légitimes. Et on peut aussi noter l'exclusion des autres voix. Les églises catholiques et protestantes ne représentent pas l'ensemble de la société congolaise. Laisser de côté d'autres confessions, organisations sociales ou même des minorités laïques réduit la portée et l'inclusivité de leur marché. Deuxièmement et enfin, ça donne l'impression d'une posture contestable face aux limites de la diplomatie et de la guerre. L'argument selon lequel elles agissent parce que la diplomatie et la guerre ont montré leurs limites est totalement problématique. Premièrement, c'est la confusion des rôles. Les églises semblent assumer un rôle qui revient aux institutions politiques et diplomatiques de l'État. En se substituant à elles, elles risquent de saper l'autorité de l'État congolaise et de ses dirigeants.
Deuxièmement, c'est l'absence de légitimité directe. Les églises ne sont ni élues et ne représentent pas officiellement le peuple congolais. Leur initiative pourrait donc être perçue comme une intrusion dans un domaine qui dépasse leur vocation spirituelle. Donc, à mon humble avis, il est vrai que les églises ont souvent été perçues comme des médiateurs en temps de crise, notamment en raison de leur ancrage dans la société. Cependant, leur manière d'agir ici pose question. Une approche paternaliste, elles agissent comme si elles détenaient seules la solution à la crise, sans impliquer les institutions ou d'autres acteurs locaux. Cela peut aliéner les parties qui devraient être engagées dans un tel dialogue. Il y a un grand risque d'instrumentalisation, parce qu'en se lançant dans cette initiative, les églises pourraient involontairement renforcer certaines dynamiques politiques ou diplomatiques qui ne servent pas forcément les intérêts de la République démocratique du Congo.
Mais là, on est dans la recherche de la paix, Thierry Moussenepo. Est-ce que l'Église catholique devrait consulter le gouvernement pour lancer cette initiative?
Madame, la recherche de la paix ne devrait pas éluder le fonctionnement d'un État. Il est important que l'on puisse ne pas oublier qu'il est aujourd'hui demandé à l'Église publiquement d'expliquer leur démarche et de clarifier avec détail leurs objectifs. D'inclure, dans la mesure du possible, toutes les autres parties prenantes, c'est-à-dire les institutions étatiques, la société civique et autres confessions religieuses et groupes locaux.
C'est une obligation, Thierry Moussenepo?
Cela ne doit pas être une invitation, c'est-à-dire je décide de faire une démarche parce que je vois que vous, les institutions de la République, vous n'avancez pas selon ma vitesse à moi, et donc je vous dis de venir. Si vous ne venez pas, c'est que vous n'êtes pas pro-dialogue, vous n'êtes pas pro-paix. Ça ne se passe pas comme ça dans un État où les institutions fonctionnent convenablement. Qui Alors, ne sait pas que la guerre peut avoir des conséquences en termes de temps, mais aussi en termes de perturbation de la vie de la population. On le voit partout. Mais il ne faudrait pas faire des actions qui soient parallèles à ce que fait le gouvernement. Cela n'est pas acceptable.
Alors, vous parlez d'exclusion. Les autres confessions religieuses n'ont pas été associées. Mais on a vu, par exemple, les églises de réveil organiser des conférences, des séminaires, des prières pour le retour de la paix en RDC sans associer l'église protestante et catholique.
Mais madame, je venais de vous dire que le rôle spirituel n'a pas à être dénigré. Ne pas à être écarté, puisque c'est cela même le fondement de nos églises. Mais il ne faut pas aussi oublier que la République démocratique du Congo est un État laïque. Donc, une initiative qui va dans le sens de la paix, dans le sens du vivre ensemble, n'est pas du tout interdit, mais il faut les préalables que je viens d'énumérer ici.
Et donc, vous estimez qu'ils sont allés, ou elles sont allées, l'Église catholique et protestante sont allées vite en besogne, avant de lancer ce pacte, elles devaient consulter le gouvernement.
Mais bien entendu, madame, parce qu'il faut, respecter les limites de leur rôle spirituel et ne pas s'improviser comme substitut des institutions de l'État.
Jean-Baptiste Kassékoua, vous êtes avec nous dans ce studio, premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement, SID, parti membre de la coalition La Moukaï, notable du Nord Kivu. Que pensez-vous de cette initiative de l'Église catholique et l'Église protestante?
Merci Madame Kelly. À cet instant même où nous parlons, les habitants de Minova, au sud Kivu, dans le territoire de Kalehe, sont à fuite. Non seulement les habitants de Minova, mais les habitants de Bishange, les habitants de Lubishi, les habitants de Kalungu, les habitants de Kitembo, les habitants de Kayushu, toutes ces agglomérations, les habitants de Nyabibwe, dans la panique, les habitats autour des Sakè, qui sont victimes des bombardements intenses depuis 48 heures, les habitants de Massissi-Centre, ceux et de toutes les périphéries. Non seulement cela, mais également à Béni, je parlais ce matin, à des habitants de Béniville, qui sont dans un état de désespoir parce qu'ils voient les ADF reprendre les tueries dans la forêt de Mayangos, qui avait déjà été présumée pacifiée par UPDF. Non seulement cela, les habitants de Moussienene, où la semaine passée, les ADF ont égorgé 45 personnes, dont les chefs de groupement. Et Kinshasa n'a dit aucun mot. Et pour ces populations, c'est le désespoir. Les habitants de Bapéré, les habitants des cantines, bref, que l'Église lance l'initiative aujourd'hui pour nous appeler fils et filles de la République démocratique du Congo, pour tout faire, de sorte que 2025 soit année de la paix, alors que pour l'instant, pour les habitants, tous ces déplacés qui sont dans les cas de Nzulo, tous ces cas de Goma de Lushagala, pour ces habitants-là, 2005 se présente comme une année de cauchemar, une année de désespoir. Pour tous ces habitants de l'Ituri, 70% du territoire de Djougou sous contrôle des groupes armés. Pour ces populations-là, 2025, c'est une année de désarroi. Et que donc, l'Église lance l'appel pour que nous puissions transformer ce désespoir en une perspective de paix par l'engagement de tout et chacun. Cet appel ne devrait pas faire l'objet des polémiques politiciennes. J'ai lu avec intérêt le paragraphe 5 de la feuille de route lancée par les évêques. Ils disent ce qui suit. Les conflits politiques et armés, ainsi que leur cortège de divisions et d'impacts dévastateurs sur la vie humaine, l'environnement et les conditions socio-économiques de nos peuples, ne peuvent plus nous laisser indifférents. Malheureusement, nous sommes en présence d'un régime composé pour la plupart de gens qui disent « je m'en fous », des « je m'en foutistes », qu'elle prenne Massissi et qu'elle bombarde même de déplacer autour de l'hôpital. Ils ont les kilos d'aller au Qatar pour assister à un match de football. Je m'en fous.
Là, vous leur prêtez des intentions. Qui vous dit que ce problème n'y préoccupe pas ceux qui sont aux affaires?
Madame, de manière insolente, hier, ils ont publié une vidéo montrant leur internement au centre Nganda pour dire, pour eux, priorité, Babandi, ils commencent leurs travaux pour l'élaboration d'une mouture pour la nouvelle constitution. Pendant que Numbi tombe, pendant que Bitonga, Bishange, pendant que Minova, Bweremana est endeuillé, il y a même eu naufrage d'une pirogue, des enfants de l'école de Bobandana. Les enseignants les ont libérés parce que les bombes étaient en train de tomber tout autour. Pendant que la population est en détresse comme ça, vous prenez une vidéo, vous dites, Biso tozo mela, biso tozo lia, tozana centre Nganda, ya biso kaka, changement de constitution. Quelle insulte! Quelle indifférence! Et donc, les évêques disent, au regard de la situation, nous devons briser l'indifférence. Et ils disent, chaque jour qui passe est un jour de trop. Et jour après jour, l'État nous fuit et les sombres perspectives d'une catastrophe humanitaire aux conséquences incalculables se précisent. C'est effectivement ces perspectives sombres qui habitent les esprits au Nord Kivu. Les esprits à Uvira, dans les hauts plateaux de Minembwe, les esprits d'Alituri, les esprits à Maïndombe, dans le Kwamoud, qui sont à proie aux tueries de Mobondo. Et donc, je m'entretenais avec les habitants de Béni, qui disent, opération Shuja lancée il y a 3 ans. Rwenzori, Mayangos pacifié. Et même Telbachou, les populations auraient pris l'espoir. Mais, depuis un temps, les ADEF sèment à nouveau la désolation. Et ces populations disent, mais à quel saint allons-nous nous vouer parce que nous nous rendons compte que, et contre les M23, et contre les ADEF, et contre les CODECO, nous ne savons pas d'où nous viendra le secours. Et donc,
vous adhérez à ce pacte?
Totalement, je prie pour ce pacte. Et comme fidèle chrétien de ce pays, je ne peux qu'apporter mon soutien, mais j'ai dit, en attendant, Monseigneur, que vous organisiez des ateliers, que vous organisiez le forum national, pour en conduire jusqu'à une conférence internationale, le temps n'est pas avec nous. Est-ce qu'on peut amorcer, envisager une démarche qui va consister d'abord à demander, sans délai, que la communauté internationale demande au Rwanda d'arrêter ces conquêtes territoriales, de demander au M23 et à toutes ses composantes, de demander à tous ces acteurs de guerre. Figurez-vous, madame, qu'avec l'occupation de Minova par le M23 et la guerre, c'est la ville de Goma, concentrée, où sont concentrés tous les déplacés, tous les cas de déplacés. La ville de Goma devient complètement encerclée. Et la seule voie de sortie, ce n'est que le lac. Ce matin, disais-je, les habitants de Minova, les uns sont en route vers Goma. Déjà, les déplacés sont sans assistance depuis beaucoup de temps. D'autres déplacés sont en route vers Bukavu. Il n'y a pas de voie routière. Mais maintenant, que par Kibumba, Goma est encerclée. Par Sake, enclavé. Par Minova, qui était la seule voie. Est-ce qu'on va attendre, Monseigneur, que l'on organise des séminaires, des ateliers? Non. Il y a urgence. Je pense que si l'Église se mobilise, le message atteint toutes les couches, nous pouvons nous lever et demander à la communauté internationale que nous avons droit à la vie. On ne peut pas accepter que Goma soit transformé en champ de tir pour que finalement demain, on vienne pour organiser demain ce requiem. Donc, il y a une extrême urgence pour que, avant que les ateliers ne s'organisent, on trouve une voie pour arrêter la guerre de toute urgence.
Monseigneur Donatien Cholet, comment vous réagissez aux propos et de Jean-Baptiste Kasikwa et Thierry Monsenepo?
Merci beaucoup. À M. Thierry, je lui demanderai d'être tranquille. La CENCO et les CC n'entendent pas prendre la place de l'État. Les évêques, comme le révérend pasteur Terke Bokonda, ne sont pas que les pères spirituels, mais ce sont aussi des pasteurs. Des pasteurs qui ont des brebis à conduire vers la bonne fin. Et dans ce cadre-là, on n'a pas besoin d'une autorité de l'État pour exercer son rôle pastoral. C'est dans cette dimension-là. La CENCO et l'ECC, en lançant cette campagne, ne convoque pas un dialogue ou espérer de médiateurs. Non. Nous mettons en place une dynamique qui peut amener à un forum national et pour arriver à une médiation, les parties prenantes sont libres d'expérimenter. Donc, il ne faut pas voir du côté de ce point de vue-là. Ça, c'est un. Deux, par rapport à la consultation des autres, je crois que si M. Thierry avait bien lu la feuille de route, nous avons parlé de plaidoyer. Bien sûr que nous ne pouvons pas faire prendre une telle initiative en mettant l'institution comme président de la République à côté. Je vous ai dit que l'appel est venu officiellement du haut de la chaire du chef de l'État. Je vous révèle, avant de mettre en place, de rendre public la feuille de route, j'ai été chargé de contacter par toutes les voies, trouver une façon d'informer le chef de l'État, et je suis tombé, ce n'était pas facile, sur une personne à qui il a confiance, à qui nous avons expliqué la philosophie, et qui a compris que c'était dans le sens de l'appel du chef de l'État, et qui a encouragé que c'est une bonne initiative. Nous avons prévu les consultations, nous l'avons déjà commencé. Et on est en train de demander les rendez-vous avec le chef de l'État dans ce sens-là. Donc ce n'est pas qu'on a ignoré personne. On n'a rien décidé. Mais si vous allez dans les sites mis en place, on attend des avis. Donc, et Monsenepo est parmi, c'est la toute première personne avec qui j'ai parlé de cette philosophie de l'ESSF, la CENCO. Il a fait une interview, vous l'avez entendu. Et là, je soulève des problèmes qui me surprennent un peu. Donc, nous nous prenons par la place. Alors, par rapport à Jean-Baptiste, qui souhaite dans l'entretemps qu'on puisse demander à la communauté internationale, nous avons prévu les plaidoyers. Pour cela, quand nous avons fait les plaidoyers, nous sommes habitués à le faire d'ailleurs, contre le Rwanda, au niveau même international. Est-ce qu'on demandait la permission à qui que ce soit? On donnait l'information parce qu'on va quand même parler du pays. Nous avons déjà à une certaine échelle l'expérience de ce que nous faisons. L'archevêque de Lubumbashi avait organisé un grand forum de vivre ensemble. Les communautés Katangais se sont retrouvées, j'étais invité, mais c'était de toute beauté. Ils se sont exprimés. Est-ce qu'il avait besoin de la permission de chef de l'État ou de gouverneur? C'est une mission pastorale. Donc, je demanderai à monsieur Monsenepo de ne pas faire de confusion à ce niveau-là. Nous réveillons de conscience. Nous invitons, nous n'obligeons personne. Et rien de ce qui a été conçu et qui sera fait dans le sens de déranger les prérogatives de contester des autorités. Si Lana, l'exemple peut me donner.
Alors, vous allez rester en ligne, Monseigneur Chollet. On va prendre très, très rapidement cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.
Je suis Ismaël Mupointo à la depuis Lubumbashi, la province du Haut-Katanga. Certaines mesures prises par les églises semblent être bonnes au début de leur démarche. Peu après, le père des églises se comporte si souvent comme le membre des opposants africains. Cela ne leur permettra pas bien de s'acquitter de leur mission prophétique. Donc, il est important que les églises soient une vraie église au milieu du village. Et l'église et le père des églises pouvaient avoir le courage de dire à tout le pays africain agresseur de considérer que la vie humaine est sacrée, car le sang du peuple africain coule jour après jour.
Alors, vous avez suivi cet auditeur. L'idée, c'est que l'Église catholique puisse, les initiateurs, c'est-à-dire l'Église catholique et protestante, puissent parler au pays agresseur directement.
Nous sommes dans cette dynamique-là, mon frère. En ce qui concerne l'Église catholique, nous nous retrouvons dans l'association des conférences épiscopales d'Afrique centrale qui regroupe le Rwanda, le Burundi et la RDC. J'étais dernièrement au mois de novembre au Burundi avec les évêques de ces trois pays-là. C'est justement pour préparer les éléments d'un plaidoyer au niveau des trois chefs de l'État. Pour votre information, mon frère de Lubumbashi, en 2019, au mois de juillet, la CENCO est allée rencontrer le président Museveni. C'était pour l'interpeller par rapport à ce que font les ADF dans l'Oukistan. On n'avait pas besoin de chef d'État pour ça. On est allé plaider pour le pays. Et aussitôt que nous sommes rentrés, on a fait rapport au chef d'État. Donc, il ne faut pas vous distraire par l'effet distraire par des politiciens qui nous voient que leur pouvoir.
Et pour le Rwanda, dernièrement, l'archevêque était à Kigali. Est-ce qu'il a parlé avec le président rwandais par rapport à la situation sécuritaire?
Et là encore, il y avait beaucoup de confusion. Pourquoi est-ce qu'il est allé au Rwanda? Parce que c'était le comité permanent du CHEAM. CHEAM, c'est l'association des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, dont il est le président. Cette année, au mois de juin, nous aurons l'assemblée générale du CHEAM. Kinshasa a déjà réussi cette rencontre-là. Alors, mais... c'est dans ce cadre-là qu'il est parti.
Oui, mais ça aurait été l'occasion pour lui de pouvoir dénoncer cette agression rwandaise.
Mais est-ce que qui ne se souvient pas que le cardinal est parmi les rares qui ont vraiment levé la voix pour dénoncer la balkanisation et l'agression?
On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Ça sera pour vous, Thierry Monfenepo.
C'est Jafet Eunga depuis la ville de Kinshasa. Le pacte social est une bonne initiative que l'Église catholique et protestante vient de lancer. À mon humble avis, cette initiative va renforcer la cohésion nationale et va donner aussi la force et le courage à nos militaires qui se battent nuit et jour pour amener la paix dans la partie est du pays. Par ailleurs, le gouvernement congolais devrait accompagner cette idée louable qui peut bouger la ligne car nous connaissons l'implication de ces deux églises au niveau national qu'international. La mobilisation ne devrait pas se limiter avec ces deux églises, mais plutôt de toute la population. Pour y arriver, il faudrait que chaque église qui se trouve dans notre pays ou des communautés des églises puissent répéter cela aux fidèles des églises pour que cette mobilisation puisse être effective et entrer dans la tête des Congolais.
Thierry Monsenepo, le gouvernement devrait accompagner cette initiative de l'ECC de l'Église catholique, selon cet auditeur.
Madame, je voulais profiter de la question de cet auditeur et je lui répondrai aussi en prenant également en réponse l'intervention de notre frère de l'ECD qui est avec nous dans ce débat et des propos que venait de tenir Monseigneur Donatien. Il est important de reconnaître que la situation actuelle, notamment l'agression extérieure.
Je crois qu'on a perdu Thierry Monsenepo. La réalisation va essayer de le rappeler sûrement un problème de connexion. En attendant de retrouver Thierry Monsenepo, vous êtes très très nombreux à nous écrire. On me signale qu'il l'a. Thierry Monsenepo, vous êtes là?
Allô?
Vous avez la parole.
Oui, j'étais en train de dire, madame, qu'il est important de reconnaître que la situation actuelle, notamment l'agression extérieure et ses conséquences, représente un défi immense pour le peuple congolais. Le déplacement massif des populations, la précarité, l'insécurité sont des réalités douloureuses qui méritent toute l'attention. Mais seulement, il faut quand même reconnaître que le gouvernement de la RDC ne reste pas inactif face à ces défis. Plusieurs actions sont déjà en cours. Sur le plan militaire, les FARDC sont pleinement engagés pour défendre l'intégrité territoriale et repousser les forces agressives. Sur le plan diplomatique, le gouvernement poursuit ses efforts auprès des organisations régionales et internationales, notamment à l'ONU et l'Union africaine, pour faire pression sur les pays responsables des agressions et obtenir un soutien plus large. Sur le plan humanitaire, une aide continue est apportée aux populations déplacées en collaboration avec les partenaires locaux et internationaux pour répondre à leurs besoins essentiels.
Mais ce n'est pas le cas. Alors, sur le terrain, Thierry Monsenepo. Il faut aller visiter ces camps, les déplacer,
si
pour vous y rendre compte.
C'est documenté, mais lorsqu'il s'agit des théâtres des opérations qui surviennent sur place, par exemple, aujourd'hui, il y a des attaques sur Minova. Mais comprenez que le gouvernement doit s'organiser pour que les déplacés puissent être soutenus et pour que l'armée puisse intervenir sur le théâtre des opérations. Moi, j'insiste sur le rôle limité et complémentaire des églises. Bien que l'initiative des églises puisse sembler noble, elle ne doit pas interférer avec les actions régaliennes de l'État. L'église a un rôle moral et spirituel à jouer, mais la coordination des réponses militaires et diplomatiques relève exclusivement des institutions étatiques. Aujourd'hui, imaginons, dans la situation du blocage qu'il y a dans le processus de Luanda, soutenu par les Nations Unies, le président rwandais qui a lancé des diatribes contre notre chef de l'État, mais que dans cette initiative des Grands Lacs, on voit des monseigneurs, évêques et pasteurs congolais aller s'afficher aux côtés de Paul Kagame. Comment notre opinion va prendre ça? Vous voyez l'importance de la coordination. Une intervention pareille, qui serait parallèle, sans des consultations profondes et préalables avec les autorités compétentes, risque de brouiller les efforts en cours et d'introduire des dynamiques conflictuelles. Pire encore, maintenant que le gouvernement est en train de condamner par la justice les acteurs de l'alliance fleuve Congo, notamment Corneille Nangaa, si dans cette initiative de vivre ensemble, demain on voit nos monseigneurs et nos pasteurs affichés aux côtés de Corneille Nangaa, qui est responsable, ensemble avec le M23 et les forces rwandaises, des meurtres de nos compatriotes à Kisese et partout encore, quelle serait la perception de l'opinion par rapport à cela? Donc, en ce qui me concerne, je dis que le contexte actuel nécessite, c'est vrai, une synergie entre tous les acteurs, gouvernement, église, société civile et même opposition, pour soutenir les populations affectées et préserver la souveraineté nationale. Plutôt que de multiplier les initiatives unilatérales et dire ouvertement, parce que nous, les églises, nous avons vu la limite de la diplomatie, la limite de la guerre, mais quel est l'instrument qui est utilisé aujourd'hui par les églises pour dire voilà, c'est par là que nous voyons la limite? N'avons-nous pas vu des guerres qui ont pris des années, des décennies? Mais il y a des institutions qui s'en occupent. Donc, il faudrait aujourd'hui que l'opposition, tout comme les églises, qui a un rôle important à jouer dans une démocratie, puisse s'exercer dans un esprit de collaboration et de soutien aux institutions légitimes. Pour faire face à cette crise, la priorité doit être l'intérêt des populations et non la division ou l'affaiblissement de l'État. Pourtant, c'est la perception qui est en train de ressortir de cette initiative.
Jean-Baptiste Kasekwa, on va prendre aussi pour vous ces derniers auditeurs qui nous appellent de Kolwezi dans le Lualaba.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les grands lacs africains lancé par la CENCO et l'ECC ne produira pas des résultats escomptés. D'autant plus que les vrais acteurs de ces conflits multiformes ne sont pas directement impliqués. Et souvent les vraies causes de la guerre qui secoue la région des grands lacs restent tellement floues et vont dans tous les sens. Il est difficile aujourd'hui de croire à un quelconque forum pouvant apporter la paix dans la région, tant que l'hypocrisie s'observe dans les chefs de certains dirigeants. Je pense que le vrai forum pour la paix dans la partie orientale de la RDC, c'est la traque et la neutralisation de ceux qui apportent leur soutien aux groupes armés. Ces gens sont identifiables et connus. Veuillez consulter ces innombrables rapports des experts de l'ONU et de certaines ONG nationales.
Qu'est-ce quoi?
Je suis quand même estomaqué par le propos de Thierry. Il dit, on a vu des guerres qui ont duré des décennies et des décennies. Ça me rappelle quelqu'un qui disait, parti de Washington, que eux qui habitent à Kinshasa ne connaissent pas la guerre. Ils voient la guerre à la télévision. Par contre, pour eux qui sont à Gombe, qui sont à Lingwala, il n'y a pas guerre en RDC. C'est une attitude d'indifférence. C'est une attitude d'absence de compassion. C'est une attitude, je sais pas, Thierry parle d'à quel but, vouloir flatter ceux qui ont le pouvoir? Non.
Il fait son analyse, il donne son point de vue par rapport à ce pacte social pour la
paix.
Donc,
pour lui, que des milliers soient égorgés à Beni chaque mois, le bilan c'est au moins 400 égorgés par mois. Que des Minova, des Bweremana, de toutes ces contrées-là, des Alimbongo, pour lui, tous ces habitants qui ont fui Bunagana, Chanzuru, Nyonyi, depuis novembre 2021 jusqu'à ce jour, il dit, c'est normal, Ailleurs, on a vu des guerres qui ont duré des décennies et des décennies. Toutes ces femmes violées dans des cas de déplacés par le fait des groupes armés incapables de vivre, on a vu des décennies. Non, s'il vous plaît. C'est effectivement pour ça, de mon point de vue, que l'initiative prise par la CENCO et l'ECC mérite d'être intensement vulgarisée dans les églises, à travers les chaînes de radio, de télévision, pour que les Congolais se réveillent et sortent de leur indifférence. Nous sommes devenus pratiquement ce que quelqu'un a appelé la République des inconscients, c'est-à-dire on nous prend plus de 140 localités et nous disons c'est normal, ça peut prendre des dizaines. On nous raconte, on nous donne des bilans. Allez lire les sites de baromètre sécuritaire du Kivu pour dénombrer le nombre de victimes chaque jour. Alors, pour revenir à ce que Patrick Mbouli dit.
Très rapidement.
Que l'initiative SCC 5O n'aura pas de résultats escomptés. Non. Quelqu'un disait, le peuple gagne toujours. Moi, je me rappelle, j'étais à Goma. À novembre 2012, lorsque les M23 et les Rwandais ont endeuillé la ville, l'armée et toutes les institutions dont parle Mousenepo ici avaient fui. C'est la population qui a organisé la résistance. Nous avons fermé les banques, les écoles, pas d'activité durable 2 semaines. Et le message a été attendu par la communauté internationale. Les CC5O à 2012 contre cette guerre ont fait des tournées en Occident, dans différentes capitales africaines. Et nous avons vu cette synergie qui a conduit à l'adoption des sanctions contre le Rwanda et nous en sommes sortis honorés. Et donc, que nos pasteurs prennent l'initiative de nous appeler fils et filles de ce pays à mettre nos intelligences ensemble, je pense que nous devons donner toutes les chances de succès à cela. Nous avons vu en juin 2004, lorsque la ville de Bukavu a été endeuillée sous Mutebuti et Kunda, ce n'était pas l'initiative des institutions politiques telles que Mousenepo l'a dit. C'est la mobilisation des étudiants, des élèves, des églises qui a amené à ce que l'on contraigne le Rwanda à retirer ses troupes. Et donc, je pense qu'il est temps qu'à travers l'église, qui est une composante pour moi de la société civile, le peuple congolais reprenne son destin à main. Nous avons entendu des discours qu'à la moindre escarmouche, il y aurait ceci. Nous avons entendu qu'il y aurait ceci. Et puis, je termine par là. Pourquoi Thierry peut craindre que des évêques, des pasteurs amorcent une démarche de dialogue? Je rappelle qu'en 2019, les 11 et 12 juillet, le pouvoir a amené ce que l'on appelle les pourparlers de Kigali avec les ex-M23. Et ils ont signé la feuille de route du 28 octobre 2019. Je rappelle que le pouvoir a fait venir clandestinement, secrètement, les gens du M23 ici pendant 14 jours. Et nous avons vu la lettre signée par le VPM, Gilbert Kakonde, du 12 février 2021, signer une feuille de route avec ces gens-là, sans que personne des Congolais ne connaisse les tenants et les aboutissants. Nous ne devons plus laisser la ville sort. La paix des Congolais être négociée clandestinement par des gens qui ne sont là que pour protéger leur pouvoir.
Jean-Baptiste Omonde Okasekwa, vous êtes très, très nombreux à nous suivre sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Paluku, depuis la ville de Kamina dans la province du Lomami, nous ne devons pas nous condamner mutuellement. L'affaire de la guerre dans la partie est du pays nous concerne tous, que chacun apporte tout ce qu'il a pour le retour de la paix. Valérien Kisembe, l'initiative de l'Église catholique et protestante est louable. Les autorités doivent accompagner cette initiative pour mettre fin définitivement au calvaire de la population de l'Est de la RDC. Monseigneur de la Sien Cholet, je vais vous demander d'être concis. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Alors, comment vous envisagez, par exemple, de surmonter les obstacles politique qui pourrait entraver la mise en œuvre de ce pacte?
Je crois que ceux qui vont s'engager à faire ce succès-là seront ceux qui n'auront pas compris, parce qu'un politique responsable et insensé ne peut qu'adopter ça. Je vous informe qu'on a déjà approché les leaders, la majorité, qui sont vraiment pour ça. Alors, je vais rappeler à tout le monde que cette initiative a été lancée par le message de Dieu l'Église au jour de Noël. Donc, c'est d'abord la foi qui est le fondement. Thierry semblait être scandalisé si jamais les évêques ou les SC allaient rencontrer Kagame ou Denanga. Je rappelle qu'avant d'être politique, il est d'abord chrétien. Comme chrétien, la parole de Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, de combattre, d'haïr ce qui les rend nos ennemis et non les haïr. Et ça ne sera pas la première fois. La CNCO en 2012 est allée jusqu'à Rutshuru, dans les quartiers généraux de même M23, était toujours avec le Rwanda pour passer un message qui a été applaudi par la foule, mais qui n'arrangeait pas le 23. Donc, nous, on ne fait pas des choses pour plaire aux politiciens, mais c'est par rapport à nos convictions. Si pour les biens supérieurs, il faut approcher les uns les autres, même si un groupe qui préfère avoir l'argent, le pouvoir et se foutre de la paix, on va s'engager.
Merci, Monseigneur Donatien Cholet. Thierry Monseigneur, pour 30 secondes, votre conclusion. Thierry Monsenepo, il est parti. On va le rappeler quand même. Jean-Baptiste, c'est quoi? Vous avez 30 secondes, hein, s'il vous plaît, pour votre conclusion.
Je voudrais que les pères de l'Église adoptent une approche globale pour ne pas se limiter à la crise du M23, qu'ils intègrent la crise des ADEF, qui est la plus meurtrière, la crise des CODECO, qu'ils ne s'empêchent pas d'aller rencontrer Kagame, d'aller rencontrer même ces pantins du M23, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait d'accord secret du genre intégration de l'armée. Par contre, si par le canal de nos évêques, ils remettent leur cahier de charge pour que la nation sache qu'est-ce qui est consommable, qu'est-ce qui est inacceptable, plutôt que de laisser les gens aller négocier clandestinement, négocier, promettre amnistie, intégration politique, militaire. À ce genre-là, il faut que nous soutenions tous l'effort des évêques. Merci. Qui va dans le sens de l'appel de l'ECID, un appel à la cohésion nationale, mais qui ajoute la dimension internationale.
Merci.
Et Martin Fayoulou a déclaré qu'il apporte son total soutien à la démarche.
Thierry Monsenepo, votre conclusion.
Merci madame. J'ai l'impression que mon frère de l'ECID se concentre sur mon doigt plutôt que sur la lune que je lui montre. Personne n'a jamais dit que les mots causés par les guerres étaient acceptables. Le gouvernement travaille sur plusieurs fronts pour répondre à ces problèmes. Donc prétendre que je flatte ou minimise la situation, c'est faire preuve d'obstination inutile. Cela dit, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, les églises catholiques et protestantes congolaises peuvent affirmer que la diplomatie ou l'armée ont atteint leurs limites. Non. Ce que je dis, c'est que penser à la paix, comme le font les églises aujourd'hui, est une démarche louable. Mais cela doit être une action qui soutient et complète ce que fait et pense le gouvernement. Merci.
Merci Thierry Monsenepo. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce numéro. Guy Maté, Freddy Bikumbi, Grace Amzati, Alain Goy, Jonathan Fonani, Hervé Voka, Clément Chimanga, Martin Seboujangwe a supervisé ce programme. Présentation et coordination, Kelly Nkouté. Restez branchés sur Radio Capi.